Nous lisons dans la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi, nous qui croyons en Jésus-Christ. Parce que Dieu est un Dieu puissant. C'est notre foi, c'est notre assurance. Nous n'avons pas de doute là-dessus, en tout cas je l'espère. Nous avons une certitude. Et c'est comme ça que c'est affirmé dans la parole de Dieu. Un philosophe français a dit « Seuls les êtres qui meurent sont vivants ». Alors ça, c'est bien les paroles des philosophes. Il faut se creuser 3 heures pour comprendre. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que pour beaucoup de gens, la mort qui va venir, on va mourir, on le sait, est une motivation pour vivre plus. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec son affirmation. Je trouve que de savoir qu'on va mourir, c'est très déprimant. Ça ne donne pas envie de continuer à vivre. On dit, mais de toute façon, à quoi ça sert que je me batte? À quoi ça sert que je fasse ci ou ça? Puisque je vais mourir, puisque tout a une fin. Et si on est logique d'une certaine façon, d'une façon philosophique, le fait qu'on meure rend la vie absurde et vaine. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je vais apprendre des choses puisque je vais mourir? Et peut-être même mourir jeune. Pourquoi est-ce que je vais essayer de construire une famille, d'accumuler de l'argent pour peut-être acheter une maison ou quelque chose? À quoi ça sert? Je vais mourir. Pourquoi est-ce que j'essaie de bien me comporter? Puisque de toute façon, on va mourir. Alors mangeons et buvons, comme dit la Bible. Car demain, nous mourrons. Pourquoi on ne passe pas son temps à s'amuser? Puisqu'on va mourir. Pourquoi être sérieux? Pourquoi essayer de faire des choses bonnes, utiles pour l'avenir, puisqu'on va mourir? Puisque de toute façon, quand je meurs, je laisse tout. Peu importe qu'on se souvienne de moi, ça m'est égal que mon nom soit écrit dans le marbre, puisque je suis mort. Pourquoi je vais essayer de marquer la postérité, puisque je vais mourir? La vie n'a pas de sens avec la mort. Mais s'il y a bien une résurrection, comme la Bible le dit, la vie prend tout son sens. La mort n'est qu'un passage. La Bible nous donne beaucoup de raisons de vivre et d'espérer. Et l'une d'elles, c'est que la mort n'est pas la fin. C'est que la mort n'est pas l'ennemi impitoyable qu'on ne peut jamais vaincre. Mais la mort a été vaincue par notre Sauveur, Jésus, le Christ. Et celui qui croit en Christ ressuscitera aussi. Il ne restera pas dans la mort. Quelqu'un dira, oui, mais alors, vous croyez en la résurrection de Jésus, vous croyez en votre propre résurrection, mais ça c'est une question de foi. Vous ne voyez rien, vous n'avez pas vu Jésus ressuscité. Vous n'avez vu personne ressuscité. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un ressuscité? Est-ce que quelqu'un habite parmi nous dans ce monde et dit, ça y est, oui, je suis mort et je suis ressuscité? C'est une question de foi. Mais je dirais, l'inverse est vrai aussi. Quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection de Jésus, c'est une question de foi. Il refuse de croire. J'appellerais ça de l'antifoi. Il a une foi inversée, il a une foi d'incrédule. Il refuse de croire en Dieu. Oui, mais il y a le témoignage des philosophes. En France, on aime beaucoup citer les philosophes. Nous sommes un pays d'humanisme et d'humanité. Et à l'école, on nous enseigne les philosophes, les philosophes, les philosophes. Mais les philosophes croyaient en Dieu, la plupart. Les philosophes modernes qui ont façonné la pensée occidentale, à part la Bible. Descartes, on cite toujours Descartes. Je suis cartésien. Mais Descartes, il a écrit des pages et des pages pour prouver que Dieu existe. Le but de Descartes dans ses œuvres, c'était de démontrer par la logique qu'il y a un créateur. Pascal, Blaise Pascal, le grand mathématicien français, philosophe aussi, qu'est-ce qu'il a dit, son fameux pari? Il a dit, si vous ne croyez pas que Dieu existe et qu'il existe vraiment, quand vous allez mourir, vous allez être condamné pour l'éternité. C'est terrible. Mais si vous croyez que Dieu existe, alors qu'il n'existe pas de Dieu, quand vous mourrez comme les autres. Et son raisonnement, c'était qu'il vaut mieux croire. Même si on n'est pas sûr qu'il existe ou pas, on a plus intérêt à croire. Bien sûr, ce n'est pas notre message à nous ici dans une église. Mais c'était un philosophe et un mathématicien. Il était loin d'être stupide, Pascal. Lui-même croyait en Dieu et en Jésus-Christ. Voltaire, qui était plutôt rebelle dans sa pensée, c'était un anti-église. C'est pourtant lui qui a dit qu'il ne pouvait croire qu'en un grand horloger. Il dit, c'est pas possible que ce monde tel qu'il est n'ait pas un grand horloger. C'est comme ça qu'il appelait Dieu. Alors, est-ce que nous pensons être plus intelligents que ces philosophes-là? Est-ce que nous pensons qu'ils étaient idiots, naïfs, qu'ils suivaient aveuglément la religion? Non, justement, ces philosophes réfléchissaient, regardaient, observaient déjà à leur époque. Et ils ont conclu qu'il y a un créateur. Et nous croyons que ce créateur est capable de vaincre la mort et de redonner la vie à ceux qui croient en lui. Mais il y a le témoignage du christianisme. Franchement, si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus était resté dans le tombeau, qu'est-ce qui serait advenu de la religion chrétienne? Les disciples, où est-ce qu'on les trouve dans les évangiles? Chacun chez soi. Il n'y a que des femmes qui continuent à croire, mais elles croient ce qu'elles peuvent. Elles vont au tombeau pour embaumer le corps. Imaginez que le corps soit toujours là. Elles embaument le corps et Jésus reste dans la tombe. Certainement, les disciples auraient vénéré la tombe pendant quelques années. Mais le christianisme serait resté une petite secte juive. Ça n'aurait pas rempli le monde. On ne serait pas en 2014 après Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a des petites sectes qui existent toujours et qui ont existé au temps de Jésus. Elles n'ont pas décollé. La résurrection de Jésus-Christ a tout changé. À quoi bon vénérer un Dieu mort, un Messie qui a échoué lamentablement, un Sauveur qui est mort et enterré? À quoi bon? Ça n'a aucun sens. Si le christianisme a rempli le monde en une génération, c'est par la résurrection de Jésus-Christ. On dit souvent que c'est l'Église de Rome qui a colonisé de force et qui a christianisé de force les gens pour qu'ils deviennent tous chrétiens. Mais c'est faux historiquement. L'Église de Rome, dans toute sa puissance, si on peut dire, a commencé vers le 4e siècle après Jésus-Christ. Avant cette époque, l'Église chrétienne en général était persécutée à mort. C'était beaucoup de Juifs qui croyaient en Jésus. Et puis ensuite, des païens ont commencé à croire aussi et à suivre les églises, mais c'était des églises de maison, persécutées, ils fuyaient d'une ville à l'autre. Et pourtant, Paul écrit aux Romains, il dit « Votre foi est renommée dans le monde entier ». Ça, c'était dans les années 60 déjà. « Votre foi est renommée dans le monde entier ». Comment l'évangile a été aussi vite, en une génération? C'est pas parce qu'il y avait une église, non. C'est parce qu'il y avait des croyants qui croyaient en cette résurrection. Franchement, quel message on aurait à dire tous les dimanches si Jésus n'était pas ressuscité? Mes chers amis, on pleurerait tous les dimanches, on dirait « Ah, s'il avait pu ressusciter !» Il est mort, voilà. Il a essayé. Vous auriez envie de venir, vous, au culte le dimanche, en entendant ce message? C'était pas mal, il a fait un essai. Mais malheureusement, au dernier moment, ils l'ont crucifié, ils l'ont arrêté. Il aurait pu nous sauver, peut-être. Il a essayé. Mais comment un mort peut-il nous sauver? Comment un cadavre enterré peut-il nous sauver? Il ne peut pas. Il fallait qu'il soit ressuscité. Et ce qui est étonnant, c'est que on a le témoignage des évangiles au sujet de la résurrection. Et ce que disent les évangiles, c'est que les apôtres ne croyaient pas à la résurrection. Marc 16, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, que Jésus vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. On a lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc, ils ont pris ça pour des rêveries de bonnes femmes. Les apôtres n'attendaient pas la résurrection. Pourtant, Jésus leur avait dit, je vais être arrêté, je vais être crucifié et je vais ressusciter. Le troisième jour, il avait dit. Mais eux, ils n'y croyaient pas. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'imaginaient pas que ce soit possible. Ils pleuraient dans leur maison, dans leur chaumière. Le témoignage de Thomas. En France, on aime bien dire « Moi, je suis comme saint Thomas ». Mais j'aimerais que tous les Français soient comme saint Thomas. Parce que Thomas, il a dit, comme il n'était pas avec les autres apôtres, lorsque Jésus s'est montré vivant, ressuscité, il a dit « À moi, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas, c'était un cartésien, comme on dirait. Hein. Il voulait toucher, il voulait voir, il voulait des preuves. Eh bien, Jésus est revenu une autre fois dans la maison. Il est entré comme ça, sans porte, sans rien, dans son corps ressuscité. Et il a dit, « Thomas, mets ta main, touche. Regarde, c'est pas moi. » Et Thomas est tombé à genoux. Et il a dit ces paroles, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il a adoré Jésus comme Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut revenir des morts de cette façon. Les disciples qui allaient vers Emmaüs, c'est Luc qui nous raconte ça à la fin de son évangile. Ces deux disciples, probablement un homme et une femme, qui marchaient tristement. Ils avaient cru en Jésus, ils avaient dit « C'est notre Messie !» Et puis ils ont vu la crucifixion de loin et ils ont dit « C'est terminé, tout est fichu. » Et ils avaient cette déprime, cette dépression profonde hein, dans leur cœur. Et ils marchaient, ils rentraient chez eux. Et puis un troisième homme se joint à eux et dit « Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « Ah, mais on croyait que Jésus de Nazareth, c'était le Messie. » Et puis voilà, il a été arrêté, et puis il est mort, et puis rien, il n'y a plus rien. Et puis l'homme parle avec eux, il discute, et puis un moment, il s'assoit pour manger, et ce troisième homme rend grâce à Dieu, et au moment où il rend grâce à Dieu, ils le reconnaissent, c'est Jésus ressuscité. Et il disparaît de leur vue. Et ils reviennent en courant avec la joie. On l'a vu, il est ressuscité, c'est vrai. Mais vous avez noté, ils n'y croyaient pas, ils n'attendaient pas. Si on avait inventé cette histoire, est-ce qu'on aurait mis ces gens qui n'y croyaient pas? On a le témoignage de l'Ancien Testament sur la résurrection du Messie. Il n'y a pas beaucoup de témoignages dans l'Ancien Testament parce que c'était une vérité plutôt cachée. Mais il y a quand même le psaume 16, verset 10, où David, parlant par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Messie, déclare « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » David dit « Tu ne permettras pas que mon corps pourrissent. » C'est ça qu'il dit là. « Tu ne livreras pas mon âme à la mort définitivement, tu ne laisseras pas mon corps pourrir. » Et David a été enterré et il n'est pas ressuscité à ce moment-là. Son corps, il y a toujours le tombeau de David. Mais il parlait du Messie, il parlait par la bouche du Messie éternel. Et Jésus, son corps n'a pas pourri. Hein. En 3 jours, il n'a pas eu le temps. Ésaïe 53, versets 9 et 10. « On a mis son tombeau parmi les méchants, son tombeau avec le riche. » Effectivement, c'était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, un homme très riche. « Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et il prolongera ses jours. » Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. J'ai du mal à croire que c'est dans l'Ancien Testament, que c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Il dit que le Messie, le serviteur de l'Éternel, là dans ce chapitre, donnera sa vie en sacrifice pour le péché, mais qu'après être mort, il continuera à vivre. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce n'est pas qu'il vit à travers d'autres personnes, c'est lui qui vit. Et qui fait prospérer l'œuvre de Dieu étant ressuscité. Même l'histoire du prophète Jonas, qui reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Normalement, si vous restez 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, vous mourrez. Ça existe, hein? C'est arrivé à un pêcheur, paraît-il. En tout cas, c'est ce que racontaient les pêcheurs. qui a été avalé par un cachalot ou un engin de ce genre et qui est resté dans l'estomac du poisson et qui a réussi à sortir lorsque ses camarades ont pêché le poisson et ont ouvert son ventre pour l'en extirper. Mais 3 jours et 3 nuits dans un poisson, vous mourrez. S'il n'y a pas les acides qui vous rongent, vous mourrez étouffé, vous mourrez de chaleur, vous mourrez de crise cardiaque. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans ce poisson et le poisson l'a recraché par la volonté de Dieu et il est sorti vivant de cette histoire. Et c'était prophétique du Seigneur Jésus qui est resté 3 jours et 3 nuits dans la tombe et qui est ressuscité victorieusement. Notre foi repose aussi sur les évangiles. Souvent on dit, oh les chrétiens, ils ont une foi aveugle, une foi du charbonnier. Ils croient tout ce qu'on leur dit, voilà. Et si un prêtre ou un pasteur leur dit, il faut croire ça, tout le monde, d'accord. Et ils déclarent des choses sans savoir de quoi ils parlent. Oui, Jésus est vraiment ressuscité, mais est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu as compris? Eh bien oui, parce que les évangiles nous témoignent de cette résurrection. Nous avons notre foi basée sur des récits de témoins oculaires. Pas des affabulations, pas des légendes. Pas des histoires dormir debout qui se contredisent les unes les autres. Nous avons 4 évangiles qui donnent des éléments différents mais qui vont tous dans la même direction et qui ne se contredisent pas. Jésus est mort sur la croix. Il a été descendu mort parce qu'on lui avait mis une lance dans le côté. Hein. Si vous survivez une lance dans le cœur, bravo. On ne peut pas survivre à ça. Et il a été mis dans le tombeau. Et il a été laissé là 3 jours. Enfin, 2 jours en fait. Parce que c'était le Shabbat, c'était la fête de Pâques. Et le 3e jour, les femmes sont venues embaumer son corps. Elles ont vu qu'il n'était pas là, elles ont vu les anges, elles ont vu la garde qui gardait le tombeau qui était complètement apeurée, étalée par terre. Tout ça, ce sont des témoins oculaires. Les 4 évangiles ont été écrits, les 3 en particulier, Matthieu, Marc et Luc, dans les années 50, 60. Donc, une trentaine d'années après la mort de Christ. Pourquoi ça a été si long? C'est que certainement ils ont travaillé pour les rédiger, mais qu'ils sont sortis dans ces années-là. Mais bien avant, il y avait déjà des récits sur Jésus. Les témoins oculaires, les apôtres. Matthieu était un des apôtres. Marc, il a écrit, selon les historiens de l'Église, sous la dictée de Pierre. Donc Marc, c'est l'évangile de Pierre. Luc, il a interrogé tous les témoins oculaires qu'il a trouvés qui étaient encore vivants, et il y en avait pas mal. Surtout la mère de Jésus, Marie. Et Luc a fait un travail d'historien de recherche pour écrire son évangile. C'était un médecin. Jean, lui aussi, a connu de près le Seigneur et tous les proches du Seigneur. Les 4 témoignent de la résurrection de Christ. Il n'y en a aucun qui contredit l'autre. Il n'y en a aucun qui dit « j'ai des doutes quand même ». Non, ils sont tous catégoriques parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité, sauf Luc. Évangile des témoins oculaires. Voilà sur quoi est basée notre foi. Même les évangiles apocryphes dont on parle si souvent ne contredisent pas la résurrection de Jésus. Et puis les Juifs. S'ils avaient inventé les évangiles, s'ils avaient inventé l'histoire de Jésus, qu'est-ce qu'ils auraient raconté? Ils auraient raconté que Jésus était le Messie, on est d'accord jusque-là, qu'il a été arrêté à la rigueur, et que là, Pilate l'a fait crucifier, parce qu'il n'aimait pas les païens, donc c'est un païen qui a fait crucifier Jésus. Et que là, lorsqu'il était cloué sur la croix, d'un seul coup, il a arraché les clous, il est descendu. Il a mis la couronne sur sa tête et il a dit « Je suis le roi d'Israël, je suis le Messie. Nous allons maintenant chasser les Romains de notre terre. » Voilà ce que des Juifs auraient raconté, s'ils avaient inventé cette histoire. Parce que les Juifs attendaient un Messie glorieux, un Messie régnant, un Messie militaire même. Pourtant, ce sont des Juifs qui ont écrit les évangiles. Mais ce qu'ils racontent, c'est l'histoire d'un Messie qui reste sur la croix, qui meurt sur la croix et qui ressuscite. Il n'attendait pas la résurrection. Ce n'était pas une vérité qui était importante dans le judaïsme. Alors, quand on dit « Oh, les évangiles, c'est une invention des hommes », c'est vite dit. Mais j'aimerais qu'on le prouve, que c'est une invention des hommes. Parce que tout le témoignage des évangiles est véridique et vérifiable. C'est Simon Greenleaf, qui était un grand recteur d'université américaine, une université de droit, il a dit « Il y a assez de différences entre les quatre évangiles pour montrer qu'ils n'ont pas été écrits ensemble. Et en même temps, il y a assez d'accords entre les quatre évangiles pour démontrer qu'ils décrivent de façon indépendante les mêmes événements. Les quatre évangélistes racontent les mêmes choses, mais avec des points de vue différents, comme quatre témoins de points de vue différents. Mais ils sont vérifiables, véridiques, dignes de foi. Si c'était les apôtres qui avaient inventé l'histoire de Jésus et des apôtres, parce que les apôtres sont mis en avant, il y a les 12 apôtres. Voilà. Peut-être c'est un des 12 ou c'est les 12 ensemble, ils se sont dit on va écrire une histoire et on va être les héros. C'est humain, d'accord, les héros, mais quels héros ils forment là? Ils sont des héros lamentables. Dès que Jésus est arrêté, tout le monde se sauve. Et les femmes les trouvent dans la maison en train de pleurer. Qu'est-ce que c'est ces héros? Est-ce qu'on aurait inventé une histoire comme ça? Franchement, si on invente une histoire, on se met en valeur, on se met en avant. Qui a pu raconter, inventer cette histoire? Personne n'a inventé cette histoire. C'est l'histoire de Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé réellement. Il est vraiment mort, il est vraiment ressuscité. Pourquoi Jésus s'est-il montré à des femmes en premier? Si c'était des Juifs qui avaient écrit, des hommes, ils n'auraient pas mis des femmes en premier. Ils se seraient mis en avant. Jésus serait venu les voir. Je suis ressuscité. Ah, mais bien sûr, j'y croyais déjà, j'attendais. Mais là, ce sont des femmes qui découvrent la chose. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de corps de Jésus? Pourquoi il n'y a pas de tombe et de corps de Jésus? Alors, il y a le tombeau à Jérusalem, qui est 90% probablement un faux. Le corps de Jésus a disparu. Est-ce qu'on a pu voler le corps? Est-ce que ce sont les Romains, par exemple, qui ont pu prendre le corps? Mais non, les Romains, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils restent dans la tombe. Pourquoi? Ils ont scellé la pierre avec le sceau romain. Et ils ont mis une garde pour qu'on n'y touche pas. Donc ils ont tout fait pour que le corps ne bouge pas. Oui, mais alors c'est les disciples qui ont volé le corps et qui ensuite ont dit « Ah, il est ressuscité !» Mais est-ce que vous voyez ces disciples apeurés voler un corps face à une garde et un tombeau scellé? La pierre que l'on roule là, elle peut faire jusqu'à 2 tonnes. Il faut une sacrée équipe pour bouger une pierre comme ça. Elles étaient faciles à fermer parce que c'était en pente. Mais pour l'ouvrir, il fallait toute une équipe et tout un matériel. Et il y avait cette garde. Vous croyez que les gardes seraient comme ça, on regarde pas. Non, il y avait le sceau romain. Si les gardes faillissaient, ils étaient dignes de mort. Leur vie était en jeu, là, sur ce tombeau. Mais admettons que par un miracle extraordinaire, les disciples aient réussi à hypnotiser ou empoisonner, tout ce que vous voulez, les gardes. Qu'ils aient réussi à voler le corps. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont mis quelque part, j'imagine. Est-ce qu'il n'y a pas un témoin de tout ça qui un jour a dit « Il faut que je vous raconte un secret, c'est trop lourd pour moi. Ce secret, c'est que nous avons volé le corps et nous l'avons mis à tel endroit. » Et là, des gens seraient venus en pèlerinage adorer l'endroit du corps de Jésus. Mais ça n'est pas arrivé. Personne n'a jamais dit que Jésus, qu'on avait volé le corps. Il n'y a aucun écrivain, aucun historien, aucun romain, aucun juif. Jamais personne n'a nier la résurrection de Jésus. Historiquement. Mais le plus grand témoignage de la résurrection de Jésus, ce sont les vies changées. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est une religion de mort. Une religion de mort, ça fait que des morts. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les religions humaines ? C'est que les religions humaines vous demandent des choses à faire, des rites. Il faut répéter des choses, il faut refaire des gestes. Et on vous dit, si tu fais tout ça bien, peut-être que tu plairas à Dieu et que tu seras un bon ceci, un bon cela. Mais la religion de vie, c'est elle qui vient dans votre cœur et qui vous change. Elle ne vous demande pas des rites, elle demande votre cœur. Elle demande votre foi. Et elle dit, Jésus est venu te sauver. Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Est-ce que tu veux le croire de tout ton cœur? Jésus veut changer ton cœur, te greffer un nouveau cœur, te faire naître de nouveau. Quand Jésus vient dans un cœur, il apporte une nouvelle vie. Moi qui étais mort dans mes péchés, je suis né de nouveau, j'ai la vie éternelle. Je sais pourquoi je vis. Pourquoi est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez comme le philosophe du début, là, parce que vous allez mourir? Est-ce que vous vivez parce que vous êtes arrivé là sur la terre, vous dites, j'ai que ça à faire, je survis? Ou est-ce que vous savez pourquoi vous vivez? Parce qu'il y a un Dieu qui vous a aimé, qui est descendu vous chercher, vous racheter, vous sauver, et qui est entré dans votre vie, et qui vous a donné la vie éternelle, celle qui traverse la mort et qui dure l'éternité. Est-ce que vous avez une raison de vivre, une espérance vivante? C'est ce que fait la résurrection. Je crois en la résurrection parce qu'il y a le témoignage de la Bible, des évangiles, parce qu'il y a le témoignage des témoins oculaires, mais aussi parce qu'il y a le témoignage des vies changées, et aussi parce que je l'ai goûté moi-même, cette vie. J'étais athée, j'étais anticlérical, j'étais rebelle à Dieu. Je ne croyais ni au diable, ni en Dieu. Et un jour, en lisant les évangiles, lorsqu'on m'a expliqué ces choses, j'ai ouvert mon cœur à Dieu et j'ai compris qu'il m'aimait vraiment, que je n'avais pas besoin de le fuir, mais qu'au contraire, si je l'acceptais dans mon cœur, il me donnerait une nouvelle vie, une vie de pureté, une vie de sagesse, une vie d'amour, une vie de joie. Dieu est un Dieu de joie, ce n'est pas un Dieu de tristesse, de lourdeur, de pénible. La résurrection, c'est merveilleux, c'est la joie, c'est la victoire. L'amour de Dieu aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que le christianisme qui a ça, qui a un sauveur ressuscité. Sans vouloir faire de comparaison, il n'y a qu'un seul sauveur qui soit mort et ressuscité pour nous. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui n'a jamais ouvert son cœur, qui n'a jamais cru en cette résurrection? Vous avez des doutes, mais maintenant il faut choisir. Croire en vos doutes ou croire en l'Évangile? Croire dans votre réflexion personnelle ou croire dans le témoignage de la parole de Dieu? Il y a un choix et on va s'incliner dans la prière, prendre une minute pour méditer tout cela. Dieu nous appelle, chacun qui est ici. Aujourd'hui, c'est Pâques. Aujourd'hui, c'est la résurrection, la vie qui triomphe. Est-ce que vous avez cette vie éternelle? Est-ce que vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur? Ou est-ce que vous êtes dans l'incrédulité, dans la révolte? Vous avez peut-être des raisons d'être révolté. Vous avez eu peut-être un mauvais témoignage de chrétien. Vous avez eu des mauvaises expériences. Mais ce matin, on ne vous parle pas de témoignages, d'expériences, on vous parle de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Saint, le Juste, le Messie, le Fils de Dieu. Et il est venu mourir et ressusciter pour vous aussi. Parce que vous avez péché, parce que vous êtes coupable devant Dieu, il a accepté de prendre votre dette, votre faute sur lui. Et il a été frappé à votre place sur la croix. Et il a emporté vos péchés dans la mort avec lui. Et il les a laissés dans la mort. Et il est ressorti vivant, victorieux. Si aujourd'hui vous mettez votre foi en Christ, vos péchés seront définitivement enterrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur, ouvrir son cœur? Peut-être que vous demandez qu'on prie pour vous. J'aimerais juste vous laisser cette occasion. Si vous levez la main et vous la baissez aussitôt, je vous verrai et je pourrai prier pour vous. Il en va de votre vie éternelle. Croyez-vous en la résurrection? Croyez-vous au Sauveur ressuscité? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin de prière? Si nous sommes tous dans la foi, c'est bien. Oui. Peut-être avez-vous des doutes. Ô Seigneur, je veux te prier pour cette personne qui a levé la main. Et en levant la main, elle tend sa main vers toi. Seigneur, je prie que tu l'éclaires, que tu vraiment renforces sa foi, que tu te révèles à cette personne pour qu'elle croie non pas en une religion, mais en toi personnellement. Pour qu'elle ne vienne pas juste pour des choses matérielles ou mondaines, mais qu'elle vienne pour être sauvée de son péché, pour avoir la vie éternelle. Merci Seigneur de toucher ce cœur à salut et de lui donner la vie, comme tu as promis que la vie éternelle était un cadeau gratuit, un don de ta grâce. Merci Seigneur pour ce cadeau. Loué sois-tu pour cela. Amen. On peut chanter « À toi la gloire » pour terminer, si vous voulez bien vous lever avec moi.